l'histoire. Tous défendent que la compréhension des faits humains passe nécessairement par l'étude de leur développement dans le temps. Leur science de l'homme est ainsi, en son essence, on pourrait dire, génétique, et l'on pourrait sans doute légitimement parler, même si, à ma connaissance, la chose n'a pas été beaucoup évoquée, légitimement parler pour décrire de tels projets intellectuels d'un historicisme à la française. On parle toujours de l'historicisme allemand, mais en fait, il y a peut-être aussi un historicisme français. Se pose alors la question de ce que fait à la science du passé son insertion, donc à l'histoire, son insertion dans un projet philosophique plus global, fondé sur la psychologie. Chez Taine, chez Renan et chez Maury, on l'a vu, la psychologie ne désigne pas en effet seulement un objet privilégié de la science de l'homme, en vocabulaire moderne, le psychisme, mais, comme on l'a vu, la psychologie désigne aussi une méthode pour étudier cet objet. Il paraît donc utile d'examiner cette méthode si l'on veut comprendre ce que signifie exactement Renan lorsqu'il définit la science de l'humanité comme une psychologie historique, c'est une expression qu'il emploie dans L'avenir de la science, ou encore ce que veut dire Taine lorsqu'il défend que l'histoire, et je reprends la fin d'une des citations que je vous ai déjà données, que l'histoire est au fond un problème de psychologie. Par-delà la description que donnent à lire les documents, l'histoire a pour Renan, Taine et Maury vocation donc pas seulement à décrire les faits que l'on peut restituer à l'aide des sources, mais vocation aussi à explorer les causes et les lois des phénomènes humains que l'on peut aborder par les sources. Elle doit à cet effet déceler les données psychologiques dont on a vu qu'elles constituent pour tous ces auteurs les causes des phénomènes humains. Or, ainsi conçu, et c'est surtout sur ce point que j'aimerais insister, le recours à la psychologie est ce qui va permettre à ces auteurs de surmonter une apparente contradiction de la définition de l'histoire dans le cadre du positivisme. Comment, en effet, construire une science du passé sur l'idéal de l'observation, alors même qu'il semble a priori, qu'il est a priori impossible d'observer directement des faits du passé? À la différence de très nombreux auteurs du XIXe siècle, comme Ranke outre-Rhin ou comme Fustel de Coulanges ou Langlois et Seignobos en France, des auteurs comme Taine et Renan, notamment, ne vont pas chercher prioritairement à résoudre cette difficulté en engageant une réflexion qui permet de légitimer l'idée d'une observation indirecte des faits du passé. Donc une observation indirecte qui passerait par la médiation des sources historiques. Ça, c'est la solution, par exemple, de Langlois et Seignobos à la fin du XIXe siècle, dans l'introduction aux études historiques. Nous ne pouvons pas observer directement les faits du passé, mais nous pouvons les observer indirectement par des procédures rigoureuses, par l'intermédiaire ou en nous intéressant aux sources. Ça n'est pas la manière, ça n'est pas la solution que vont privilégier Taine et Renan. Bien sûr, tous les deux, Renan comme Taine et Maury plus encore, consacrent dans leurs travaux historiques de longs passages à la question des sources, à la question des documents. Dans La vie de Jésus, par exemple, l'introduction et un appendice ajouté à une édition postérieure sont consacrés à l'évaluation alors très controversée des évangiles comme source historique pour restituer la biographie de Jésus. De même, il suffit d'ouvrir les origines de la France contemporaine de Taine à la première page pour lire la dédicace, qui est une dédicace aux archivistes et bibliothécaires de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales, c'est formulé sous cette forme, donc sans lesquels, poursuit Renan dans son introduction, cet ouvrage, les origines de la France contemporaine, n'auraient pas pu être réalisées. Mais ces réflexions sur les sources aboutissent, dans la totalité des cas, à l'idée qu'il est nécessaire de dépasser le travail d'érudition et le travail d'archives. Et ce dépassement est rendu possible par la psychologie, qui fournit à Renan et à Taine un modèle qui va leur permettre de penser comme direct l'observation des faits passés. Ce modèle donc méthodologique, c'est celui de l'introspection psychologique. L'introspection psychologique ou l'auto-observation, observation sur soi-même des phénomènes psychologiques, est un outil revendiqué de la psychologie spiritualiste qui domine la première moitié du 19e siècle en France et qui a été notamment fortement inspiré par les travaux de Victor Cousin. À partir des années 1840, cette introspection psychologique devient en fait un outil de méthode légitime pour l'ensemble de la psychologie scientifique, y compris pour des auteurs qui critiquent le spiritualisme cousinien. Donc c'est le cas à la fois chez Renan, chez Maury et chez Taine. Dans Le sommeil et les rêves, par exemple, Maury défend ainsi, dans le chapitre notamment que j'ai cité tout à l'heure, à ma méthode d'observation, la validité scientifique d'une auto-observation de ses rêves. L'essentiel du sommeil et les rêves est une ontologie des propres rêves de Maury. Taine, pour sa part, renvoie fréquemment à ce qu'il nomme la méthode de Maury, considérant Maury comme un fondateur de cette méthode. Et dans De l'intelligence, si vous connaissez cet ouvrage, il appuie très fréquemment ses démonstrations psychologiques sur ce qu'il désigne comme ses expériences personnelles. Donc il y a de très nombreux fragments introspectifs dans De l'intelligence. En ce qui concerne Renan, un ouvrage récent de Jan Goldstein que j'ai cité dans ma bibliographie, je peux vous montrer la bibliographie, un ouvrage récent donc de Jan Goldstein a montré comment Renan, qui est un ancien séminariste, je vous rappelle, qui quitte le séminaire de Saint-Sulpice dans les années 1840, comment donc Renan opère une synthèse originale entre la voie religieuse du mysticisme et dans la contemplation mystique à laquelle il a été initié, notamment au séminaire de Saint-Sulpice, et de l'autre côté, la voie sécularisée de l'introspection psychologique. Cette synthèse va mêler l'héritage de Victor Cousin, auquel il a consacré plusieurs études, à des pratiques, disons, mystiques qui viennent de la tradition bérulienne, et plus particulièrement pour les séminaristes qui sont formés au grand séminaire de Saint-Sulpice dans la première moitié du XIXe siècle, qui vient directement des écrits mystiques du fondateur de l'ordre de Saint-Sulpice, qui s'appelle Jean-Jacques Ollier. Or, et c'est surtout sur ce point que j'aimerais insister, les analyses de ces auteurs sur l'introspection psychologique vont trouver une transposition directe, assez inattendue pour nous lecteurs du début du XXIe siècle, une transposition directe dans une réflexion sur l'empathie comme mode légitime de la connaissance historique. Je prendrai ici les exemples de Renan et de Taine. La vie de Jésus de Renan va me fournir une première illustration. Dans cet ouvrage, c'est à propos de l'anachronisme que s'introduit une réflexion sur la nécessaire empathie de l'historien pour son objet. La difficulté majeure de son entreprise, donc restituer à la fois une biographie ou des éléments de la biographie du Christ, mais aussi restituer la logique qui a amené à la fondation de la religion chrétienne. Donc, la difficulté majeure de cette entreprise, défend Renan, ne réside pas dans le respect d'une critique rigoureuse des sources. Ça, Renan n'a pas de problème majeur avec cette question, même s'il y consacre des pages multiples, mais réside dans l'évitement d'un écueil qui rendrait en fait toute la tentative caduque. Et cet écueil, c'est celui de l'anachronisme. Je cite Renan, « Ne faisons pas le passé à notre image, n'imposons pas nos petits programmes de bourgeois sensés à ces mouvements extraordinaires, je poursuis, que sont les périodes de fondation d'une nouvelle religion. » C'est ainsi que se dessine ce que Renan appelle « histoire pure ». Je vous ai donné cette expression tout à l'heure. L'histoire pure, je vais citer une petite citation, « L'histoire pure, c'est une histoire qui se débarrasse de l'anachronisme. » Je cite Renan, « La condition essentielle de la vraie critique est de comprendre la diversité des temps et de se dépouiller des habitudes instinctives qui sont le fruit d'une éducation purement raisonnable, éducation du XIXe siècle. » Or, une telle définition induit un usage proprement historien de l'empathie. Pour expliquer, sans céder au jugement de la raison moderne, il faut comprendre. On trouve cette opposition chez ces auteurs entre expliquer avec la raison et comprendre. Il faut comprendre en se substituant aux acteurs du passé. Cet exercice empathique est désigné le plus souvent chez Renan par le mot « amour », mot qu'il emprunte à la tradition religieuse dont il est issu, mais aussi parfois, cet exercice est aussi désigné parfois par le mot de sympathie, mot qu'il est emprunté cette fois-ci à Michelet, parce que c'est un mot central hein, de la manière dont Michelet conçoit l'histoire. Dans la vie de Jésus, cette empathie est facilitée par le recours à des données qui sont tirées d'un voyage sur les lieux où se déroula l'existence du Christ, puisque Renan a effectué au Liban et en Palestine une mission archéologique pour le compte du ministère de l'Instruction publique. Or, ce ne sont pas des preuves archéologiques de l'existence du Christ que fournit ce périple. Il n'y a pas d'analyse, ou très peu d'analyse des données archéologiques dans la vie de Jésus. Mais les paysages parcourus en Palestine constituent ce que Renan appelle, c'est l'expression qu'il emploie, un cinquième évangile, qui a pour fonction majeure de mettre en branle l'empathie et l'introspection. Ayant voyagé là où Jésus a marché, ayant contemplé les mêmes paysages, ayant ressenti les mêmes émotions mystiques, Renan se considère comme plus apte à comprendre pleinement la psychologie et la doctrine de son personnage. De fait, le déchiffrement du cinquième évangile de la Terre Sainte a contribué, beaucoup plus que les sources écrites, à la réalisation d'une œuvre qui est pourtant définie explicitement comme une œuvre historique, hein, une œuvre d'histoire pure, dit Renan. Le manuscrit de la vie de Jésus a été rédigé sur place, au Liban, presque sans aucune documentation, hein, à l'exception des évangiles. L'appareil érudit, si vous feuilletez l'ouvrage, si vous avez la curiosité de feuilleter l'ouvrage, il y a un important appareil érudit. Cet appareil érudit a été rajouté après coup, lorsque Renan est rentré à Paris. On le voit donc, l'empathie autorise Renan à penser l'observation historique comme non médiatisée par le filtre des sources écrites. Elle permet, dans ce cas limite, la rédaction d'une histoire qui se passe presque complètement de sources écrites. Alors, il en va de même, même si bien sûr ces deux auteurs sont assez différents, il en va de même chez Taine, où l'introspection du psychologue trouve aussi un équivalent dans l'empathie de l'historien. Je cite Taine dans La philosophie de l'art. « La première opération en histoire, écrit-il, consiste à se mettre à la place des hommes que l'on veut juger. » Se mettre à la place des hommes que l'on veut juger. Ou encore, autre citation tirée des philosophes français du XIXe siècle, comme dans les sciences physiques, pour multiplier les faits, il a fallu transformer l'instrument observateur. L'historien s'est créé un thermomètre de son âme. Or, cette sensibilité de l'âme implique non seulement une attention fine aux traces des émotions des hommes du passé, mais aussi la connaissance intime de soi que procure l'introspection. Réunies, ces qualités sont fréquemment désignées par Taine par l'expression « œil intérieur ». C'est une expression qui revient régulièrement chez lui, œil intérieur. Et cet œil intérieur étant conçu comme un outil d'enquête, un outil méthodologique commun au psychologue et à l'historien. Cet œil intérieur est mis en œuvre dans les origines de la France contemporaine. J'en prendrai pour preuve plusieurs fragments donc de ce très gros ouvrage en plusieurs volumes. Un fragment paru que Taine a publié séparément dans la Revue des Deux Mondes sous le titre de Psychologie du Jacobin, ou encore donc un autre fragment, en fait un chapitre où l'on trouve les portraits de Marat, de Danton et de Robespierre, chapitre intitulé Psychologie des chefs jacobins. Dans ces passages, il s'agit de construire une explication générale de la Révolution en termes de psychologie, ce qui est conforme avec le projet que j'ai décrit jusqu'à présent. Ainsi que l'énonce explicitement Taine, ce qu'il va essayer de révéler, c'est la structure intime, c'est l'expression qu'il emploie, de l'esprit des Jacobins. Il va s'efforcer, dit-il, de descendre, c'est aussi une citation, jusqu'à la couche psychologique. Et pour ce faire, Taine engage, donc dans les origines de la France contemporaine, une démarche qui mêle empathie et introspection. C'est en suivant, dit-il, leur dogme, donc le dogme des Jacobins, à fond, je le cite, à fond comme une sonde, qu'il est possible de pénétrer jusqu'à la structure intime de l'esprit des Jacobins. C'est donc en engageant, en quelque sorte, à partir des sources, une étrange entreprise d'introspection de l'autre, hein, descendre dans leur esprit à fond, en utilisant leur dogme comme une sonde, que Taine fabrique ses portraits psychologiques. Car, pour poursuit-il, ce sont les mots qui nous sont parvenus, les textes que donnent à lire les sources, qui constituent ce qu'il désigne comme les monuments authentiques de la pensée des Jacobins. Pour saisir le fonctionnement mental des Jacobins, assimilé bien sûr par Taine à la difformité et à la folie, il faut en rechercher les marques dans les sources, donc dans les gazettes, dans les discours, dans les rapports, dans les mémoires, dans les opuscules, etc., que Taine a abondamment consulté. Dans ces sources, on peut en effet lire, pense Taine, le délire, la folie des Jacobins, rendu sensible par essentiellement le désordre du style de ces textes. Soit le désordre du style, soit le désordre de la logique de ces textes. Taine qualifie de verbiage creux, d'emphase ronflante, etc. Ainsi, comme chez de très nombreux aliénistes contemporains, ce sont les mots qui sont des discours des acteurs du passé, tels qu'ils sont retranscrits dans les sources, ce sont ces mots qui donnent à comprendre la psychologie des personnages, et notamment donc la folie des actes révolutionnaires. Mais pour qu'ils lisent réellement la folie, encore faut-il que le texte imprimé ou le texte manuscrit des sources puisse être interprété comme parole et que cette parole soit d'évidence un miroir de la pensée des acteurs. Aussi, ce n'est pas la source brute ou le texte tel qu'il nous est parvenu que restitue Taine dans les origines de la France contemporaine. Ces documents vont subir une transformation qui va précisément les faire passer du statut de texte à celui de pensée. Ces textes sont transformés en une parole interne que l'historien psychologue pourrait suivre comme si elle était la sienne. Les sources utilisées vont donc être transformées, compactées, juxtaposées pour former comme un monologue intérieur, je vais vous en donner des exemples tout de suite. Le lecteur de ce monologue peut ainsi s'imaginer voir l'esprit du Jacobin fonctionner comme en direct devant lui, devenant ainsi l'étrange auditeur d'une parole intime qui n'est pas la sienne. Ces paragraphes au statut ambigu sont le plus souvent un montage de fragments dans un texte dont la continuité et la logique sont une création de Taine lui-même. Donc Taine va prendre des petits fragments de texte et les coller bout à bout pour fabriquer une parole intérieure. Je n'emploie pas cette expression au hasard, hein, puisque au même moment, les philosophes réfléchissent sur le statut de la parole intérieure en France. Donc une parole intérieure qui, en fait, est une création de l'historien. Il en est ainsi, par exemple, dans deux extraits que j'ai choisis, que je vais vous laisser regarder, avant d'en arriver à ma conclusion, pour vous laisser le temps de vous reposer peut-être un tout petit peu. Donc, le premier est tiré du fragment qui, lorsqu'il a été publié séparément dans la Revue des Deux Mondes, s'intitule « Psychologie du Jacobin au singulier ». Donc c'est une sorte de c'est un portrait du Jacobin type, du Jacobin moyen par Taine. Et on voit à partir de d'ici, sans qu'il y ait de guillemets ou quoi que ce soit, on entre dans un discours au style indirect libre, on va dire, qui est un monologue intérieur, collectif, des Jacobins. Le deuxième exemple, je ne sais pas si vous voulez que je le... Donc là, ce que Taine veut démontrer, c'est à quel point la logique politique issue d'une mauvaise assimilation de la théorie du contrat social de Rousseau débouche sur des absurdités politiques. Donc là, on a un texte qui met en scène les transitions logiques poussées à l'extrême, en quelque sorte. Autre texte, donc celui-ci figure dans le chapitre intitulé « Psychologie des chefs jacobins », issu du portrait de Robespierre. Donc il y a trois portraits, Marat, Danton et Robespierre, qui aboutissent pour chacun d'entre eux à un diagnostic psychiatrique, renvoyé à la littérature psychiatrique de l'époque. Donc pour Robespierre, c'est un cas de double personnalité, c'est-à-dire un personnage qui est à la fois un personnage froid et contenu et un personnage sanguinaire. Ici, donc, on a restitué un monologue silencieux. L'expression est employée ici, quoi de plus doux que si je retrouve ma flèche. Voilà. Que ce monologue silencieux. Et ce monologue, donc, qui est ici bien identifié par les guillemets, est une fabrication à partir de plusieurs discours de Robespierre. Alors j'en arrive à ma conclusion. L'exemple que j'ai développé surtout ici à partir de l'histoire suggère quelques réflexions d'ordre plus général, donc qui vont me servir de conclusion. En premier lieu, la définition de l'histoire comme science psychologique implique de s'interroger sur les lieux géographiques et institutionnels de sa fabrication et de sa diffusion, et de s'interroger aussi sur le style de son écriture. Vous en avez ici de très beaux exemples. Donc, ce que l'on voit à partir de ce que j'ai dit, c'est que les archives, de même que les structures universitaires, ne constituent pas le seul centre de production, de fabrication de l'histoire au XIXe siècle. Il faut sans doute ici rappeler que jusqu'aux réformes de la fin du Second Empire, les facultés des lettres ne sont pas des lieux de recherche majeurs et ne contribuent que faiblement à former les étudiants. De surcroît, dans le contexte politique du Second Empire joue contre une institution exclusivement universitaire des sciences de l'homme, puisque sous le Second Empire, l'histoire et la philosophie sont tenues en grand soupçon et que de nombreux jeunes aspirants à la carrière universitaire, suspects de sympathie libérale, voient les portes se fermer devant eux. C'est le cas à la fois de Taine et de Renan, hein, qui ne trouvent pas de position dans le système universitaire. En outre, si s'est engagé à partir surtout de la Révolution française, comme vous le savez sans doute, un mouvement de collation et de conservation des archives, ces documents restent en large part inaccessibles aux chercheurs. Placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur jusqu'en 1880, et couverts de ce fait par la législation sur le secret d'État, le dépôt des archives nationales est très largement fermé aux historiens au XIXe siècle. Il faut des autorisations spéciales pour pouvoir aller consulter les documents d'archives. Par ailleurs, les archives départementales et municipales qui ne souffriraient pas de cette difficulté politique pâtissent pour leur part de l'absence quasi totale de personnel qualifié jusqu'aux années 1870 et donc en fait de l'absence d'inventaire. D'accord ? Donc, il y a des papiers, mais ils ne sont pas inventoriés, en tout cas pas inventoriés de telle manière qu'ils soient utilisables par les historiens. Autant que les bibliothèques, de ce fait, ou que les dépôts d'archives, on voit que les exemples de Renan, de Maury ou de Taine suggèrent que le voyage, ou bien encore l'asile d'aliénés, où on peut observer des cas de folie que l'on pourra comparer à ceux des acteurs du passé, par exemple les chefs jacobins, que donc le voyage ou l'asile d'aliénés peuvent être des lieux où l'histoire s'élabore, où l'histoire se fabrique. De même, plus que l'université, ce sont les journaux et les revues destinées à un public éclairé, journal des débats ou revue des deux mondes, qui facilitent la diffusion du projet intellectuel des auteurs que j'ai étudiés. Leur succès se fait dans les colonnes, de la presse sérieuse, mais aussi de la presse mondaine. On peut rappeler par exemple que Taine a collaboré à La Vie parisienne de Marcelin, donc une revue assez légère dans son contenu. Et que c'est là notamment qu'il a publié ses notes sur Paris, hein, qui a constitué l'un de ses ouvrages. Les carrières de ces auteurs se dessinent aussi pour partie, donc hors des milieux universitaires, notamment dans des réseaux de cours et dans les salons, notamment, comme on l'a vu, celui de la princesse Mathilde, cousine de l'empereur. À ces remarques, il apparaît que la liaison entre le développement d'un système académique ou universitaire et le dynamisme des sciences, à tout le moins des sciences humaines, mais je pense que ce n'est pas propre aux sciences humaines, que ce lien donc entre l'institution universitaire et le dynamisme des sciences n'a rien d'une évidence au XIXe siècle. Le rôle de la presse non spécialisée dans le développement des savoirs et dans leur promotion mériterait ainsi, de mon point de vue, d'être réévalué. Pour peu qu'on en accepte la formulation, ces premières conclusions impliqueraient en second lieu de reconsidérer la figure sociale du savant ou du scientifique au XIXe siècle. Science de revue et de salon, destinée à un public cultivé, la science de l'homme ainsi conçue est aussi et nécessairement une science d'auteur au sens fort du terme, c'est-à-dire au sens littéraire du terme, au sens d'écrivain. L'imbrication de l'historique, de la biographie de Jésus, de la restitution historique et de l'autobiographie, donc des rappels de son propre voyage au Liban, en Phénicie, dans la vie de Jésus de Renan, ou bien encore les mises en scène de soi dans Le sommeil et les rêves, lorsque Maury se présente en train de rêver ou en train de somnoler, ou bien encore l'emprunt explicitement revendiqué au modèle stendhalien de l'écriture dans la construction d'un portrait psychologique des Jacobins chez Taine. Tous ces points révèlent que le projet savant de ces auteurs n'est pas plus pensé dans une opposition qui peut être entendue comme confrontation fertile, hein, mais pas même comme une confrontation fertile avec la littérature, donc pas plus entendue dans une opposition avec la littérature qu'il ne l'est dans une rupture avec la philosophie. Pour le dire encore autrement, les trois cultures qui ont été étudiées, étudiées par exemple par Wolf Le Pénis à propos de la sociologie, qui oppose donc d'un côté le pôle de la littérature, de l'autre côté le pôle de la science, et entre les deux le pôle des humanités, on va dire, ou de la philosophie. On voit bien ici que ces trois cultures sont si étroitement confondues qu'il n'est pas même fait usage d'une stratégie ou d'une rhétorique de la concurrence entre ces trois cultures. Ces conclusions ne susciteraient, je le suppose, aucune surprise si elles avaient été tenues à propos de la situation des sciences au XVIIIe siècle. Elles viennent toutefois suggérer que des configurations intellectuelles et sociales que l'on juge parfois propres à l'époque moderne, notamment donc au XVIIe au XVIIIe siècle, que ces configurations ont pu se prolonger très avant dans le XIXe siècle. Sociabilité salonnière ne sont-ils assurément pas similaires sous le Second Empire à ce qu'a décrit récemment Antoine Lilti pour le XVIIIe siècle dans son ouvrage sur le monde des salons au XVIIIe siècle. Donc très certainement il y a des différences. Reste une dernière question. La situation de la science de l'homme sous le Second Empire est-elle le produit de la continuation d'un état de fait ancien? Excusez-moi, j'ai fait ce que je reproche à mes étudiants de ne pas faire. Donc reste une dernière question, excusez-moi. La situation de la science de l'homme sous le Second Empire est-elle le produit de la continuation d'un état de fait ancien qui, bien que partiellement transformé, ce que je viens de dire, serait hérité de l'époque moderne et se serait prolongé sans s'interrompre jusqu'au milieu, disons, troisième quart du XIXe siècle? Ou bien assiste-t-on au contraire au ressurgissement à la faveur d'une situation politique particulière, donc celle du Second Empire, ressurgissement d'une configuration intellectuelle et institutionnelle qui aurait pour un temps disparu entre les deux? La question reste ouverte, mais si cette deuxième hypothèse s'avérait fondée, ceci impliquerait que le processus de disciplinarisation des savoirs n'est peut-être pas aussi linéaire et progressif qu'on le pense le plus souvent, et qu'il faut envisager la possibilité de l'existence de périodes où les sciences se dédisciplinarisent. Les savoirs se dédisciplinarisent. Une telle hypothèse suggérerait, et ce sera ma dernière conclusion, que nous sommes peut-être victimes de plusieurs illusions lorsque nous utilisons la notion de discipline. La première de ces illusions est celle de l'évidence disciplinaire que dénonce par exemple Jean-Louis Fabiani dans l'ouvrage dirigé par Boutier, Passeron et Revel. Évidence disciplinaire qui nous fait croire que nos disciplines actuelles ont toujours existé. Mais une seconde illusion, un peu plus subtile, qui attend peut-être ceux qui ne tombent pas dans la première, et cette seconde illusion, ce serait une sorte d'illusion téléologique qui nous ferait croire que le passé d'une science est un long processus orienté vers la constitution, étape après étape, de sa forme disciplinaire actuelle. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup Nathalie, c'est tout à fait dans le cadre du programme qu'on avait pensé ensemble, puisqu'on parle beaucoup de l'histoire des disciplines. Et en effet, on se rend compte à quel point, à travers toutes ces conférences, cette constitution, institutionnalisation des disciplines est aussi complexe. Et ces personnages que tu cites et que certains étudiants connaissent, pour les avoir étudiés dans le secondaire, nous apparaissent absolument pas ainsi dans les ouvrages du secondaire. Là, c'est vraiment toute une autre histoire, et je te remercie de cette mise en perspective. Merci infiniment. Des questions ?
J'aurais une question, mais je ne sais pas si sort du cadre de votre propos. Si on peut savoir si entre Freud et Maury ou les auteurs que vous citez, il y avait un échange, surtout sur les rêves et les sommeils, qui est à peu près la même époque.
Alors, ce qu'on sait avec assurance, c'est deux choses. C'est que Freud, dans l'interprétation des rêves, cite Maury extrêmement fréquemment et reprend des rêves de Maury pour les analyser. Ça, c'est un premier point. Je ne suis pas certaine que l'on sache s'ils se sont rencontrés, mais Freud est venu à Paris au milieu des années 1880 pour étudier avec Charcot, et Maury fréquente ces milieux. Donc ce qui est clair, c'est que Freud a entendu parler de Maury. Maury meurt bien sûr trop tôt pour pouvoir commenter l'œuvre originale de Freud, hein, puisqu'il meurt en 1892, dans mon souvenir. 1892. Donc on n'a pas de commentaires de Maury sur Freud, ça c'est pas possible. On a des commentaires de Freud sur Maury. Oui. Nombreux.
Je voudrais poser une question sur les sociétés savantes en fait au 19e siècle, parce que bon, moi je suis 18e, donc je connais très mal la période qui suit, hélas. Mais ce que vous montrez bien, c'est que c'est vrai qu'on est dans une période où l'institution universitaire n'a pas du tout encore contribué à sectoriser, et à organiser, à découper, à faire des diplômes, etc. Et il y a des salons dont vous parlez, mais au XVIIIe siècle, c'est vraiment les sociétés savantes, les académies, qu'elles soient en France ou en province, dans lesquelles se déploie quand même une partie de ce qu'on peut appeler la recherche scientifique. Et qu'est-ce qu'il en est au XIXe siècle ?
Alors, c'est très variable suivant les disciplines, en fait. Si j'avais parlé de l'archéologie préhistorique, j'aurais parlé des sociétés savantes très longuement. En ce qui concerne... Donc, bien sûr, il y a un très important travail d'érudition qui est réalisé dans les sociétés savantes locales au XIXe siècle. Mais si on va regarder plus en détail, même dans ces sociétés savantes, en fait, il y a très souvent le renvoi à un modèle plus global, philosophique, qui est celui qui est élaboré à Paris. Donc, pour celles que je connais, donc, de ces sociétés savantes, même l'érudition la plus austère, plus difficile pour nous à aller regarder. Même cette érudition-là, elle est remise dans une perspective qui est celle de construire un savoir global. Alors, pour les milieux parisiens, la chose est plus compliquée parce que les académies sous le Second Empire jouent un rôle bien particulier qui est un lieu d'opposition royaliste à l'Empire. Donc, si on est légitimiste et si on est orléaniste, on entre dans les académies. Si on ne l'est pas, c'est plus compliqué. En tout cas, pour nos domaines, les domaines que j'ai évoqués, c'est-à-dire... donc là, on peut parler soit de l'Académie française, soit de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ou encore l'Académie des sciences morales et politiques. Donc l'Académie des inscriptions et belles-lettres est un peu plus ouverte aux travaux d'érudition. Donc Maury et Renan en font partie. Mais les deux autres académies qui sont beaucoup plus prestigieuses leur sont fermées pour cette raison. C'est-à-dire qu'il y a élection alternée, en quelque sorte, d'un orléaniste, d'un légitimiste, d'un orléaniste, d'un légitimiste. Donc du coup, ces académies jouent un rôle assez faible sur le plan scientifique, si ce n'est qu'elles financent des missions et qu'elles organisent des prix, comme au XVIIIe siècle, et que ça, par exemple, une partie de la carrière de Renan ou de Taine, qui se fait en dehors de l'université, se fait grâce à ces missions et à ces prix. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Merci. Je ne sais pas si je suis anachronique et si ma question est pertinente, mais quand est-ce que l'influence allemande se fait vraiment sentir dans ces milieux-là?
Un peu après la période que j'ai décrite. En fait, à la fin du Second Empire, au moment où Victor Duruy est ministre de l'Instruction publique, il lance une enquête sur l'état de l'université française. Les résultats de cette enquête sont très inquiétants. Et on commence à réfléchir à la possibilité d'une réforme. Et le modèle qui s'impose à l'esprit, c'est celui des universités allemandes. Donc de très nombreux acteurs de la génération suivante ont été envoyés en mission d'études, enfin, avec des bourses d'études en Allemagne dans les années 1870, à extrême fin des années 1860, début des années 1870. Durkheim, Gabriel Monod, si je prends donc Durkheim pour la sociologie, Gabriel Monod pour l'histoire. Donc à partir de ce moment-là, l'influence allemande est plus nette, mais il ne faudrait pas la surévaluer. C'est-à-dire que si on regarde plus précisément, je connais mieux l'histoire que l'histoire de la sociologie dans les détails, mais si on regarde par exemple la définition et les réflexions sur l'histoire que fait Gabriel Monod, ce sont des réflexions qui sont très directement inspirées de celles que j'ai décrites. Hein. Donc Monod conserve l'idée de sympathie. Et donc quand il écrit des textes méthodologiques sur l'histoire, il reprend le mot à Michelet. Il publie un ouvrage qui s'intitule Les maîtres de l'histoire, et les trois maîtres, c'est Taine, Renan et Michelet. Donc il y a une très forte influence en fait de ces auteurs. Et même Seignobos par exemple, que l'on connaît surtout pour son manuel de méthodologie historique, en fait Seignobos publie de très nombreux textes sur la psychologie et l'histoire, et défend que c'est la psychologie qui est la clé explicative de l'histoire. Et donc il y a des textes de Seignobos qui sont très directement inspirés de ces réflexions. Ce qui explique pour partie la difficulté qu'ont eu les historiens de la fin du 19e siècle à comprendre ce que, bon, outre le fait qu'il y avait une entreprise un peu agressive, mais ce que faisaient les sociologues, qui refusent l'idée qu'il y a que le niveau explicatif est un niveau psychologique. Donc voilà comment on peut répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rejet des influences allemandes, mais finalement elles sont peut-être beaucoup moins fortes qu'on l'a cru. C'est-à-dire qu'il y a des références aux auteurs allemands, mais c'est pas sûr que l'essentiel de la pensée de ces auteurs vienne d'Allemagne. Je suis sûre du contraire même, pour être tout à fait franche. Ranke, assez régulièrement. Mommsen, fréquemment.
Non, attendez, je vais donner le micro. Il faut que je fasse mon travail. Oui, j'ai vu.
Excusez-moi, moi, je voudrais savoir un tout petit peu sur l'orientation de leur nouvelle métaphysique, parce que vous aviez dit qu'ils ont refondé, voulu refonder la métaphysique. Donc, non pas au sens traditionnel où il y avait cette coupure entre l'être et l'objet, le sujet et Dieu, tout simplement.
Oui.
Et parallèlement, je pense qu'à cette même époque, vu que c'est le 19e siècle, en Allemagne, il y avait cette refondation de la métaphysique avec Hegel, qui ne parlait plus d'une métaphysique au sens traditionnel du terme, mais d'une métaphysique au sens d'ontologie, c'est-à-dire la science de l'être. Une science de l'être qui n'exclut pas l'objet, mais qui s'inscrit dans une sorte de dialectique immanente entre le sujet et l'objet, donc qui revient à ce qu'on appelle une logique des contenus. Donc moi, j'ai du mal à repérer leur forme de métaphysique.
Ce n'est pas une question facile, hein. Donc je vais essayer de vous répondre pour partie. Celui pour lequel c'est peut-être le plus facile de répondre, c'est Renan, puisque l'avenir de la science nous fournit des éléments de sa métaphysique. Puis il a écrit des textes sur le sujet. Donc, c'est pas très éloigné de l'entreprise de Hegel. Donc, la métaphysique telle qu'elle la conçoit Renan, c'est la synthèse des savoirs, et notamment, effectivement, la synthèse des savoirs qui incluront la conscience de l'humanité par elle-même, en quelque sorte, une conscience positive de l'humanité par elle-même. Sauf que chez Renan, c'est toujours compliqué par le fait qu'il ne s'est pas du tout débarrassé de sa foi religieuse. Donc, il reste chez Renan un sens de la divinité qui ne se réduit pas tout à fait à cette connaissance. Donc, voilà comment je peux vous répondre. Pour Taine et pour Maury, pour Maury, c'est plus compliqué parce qu'on a du mal à il s'est beaucoup moins exprimé sur le sujet. Taine en est plutôt dans une tradition matérialiste. Hein, donc, il produit une philosophie plutôt peut-être que matérialiste, on va dire moniste, c'est-à-dire qu'avec cette idée hein, que les objets ont, enfin que les objets ont deux faces matérielles et spirituelles. Tous ces auteurs sont très influencés, mais là ça dépasse un peu mes compétences en matière d'histoire de la philosophie, sont très influencés par Spinoza. Donc notamment Taine, qui a écrit de nombreux textes sur Spinoza dans sa jeunesse. Voilà, donc je suis désolée, c'est pas une réponse parfaite du tout à votre question. Mais leurs projets philosophiques sont beaucoup moins cohérents, enfin, sont beaucoup moins cohérents que ceux de Hegel, par exemple.
Oui, je voulais poursuivre sur la question des rapports avec l'Allemagne. Vous venez de dire, il me semble, que vous n'êtes pas du tout sûr de l'influence de l'Allemagne sur la France à cette époque-là, ouais. Plutôt, voire plutôt dans le sens inverse. Il y a quelque chose qui m'a interrogé. C'est plus l'Allemagne, c'est plutôt l'école de Bâle, mais la distinction entre explication et compréhension qui est attribuée, ouais. Qui est attribuée à Diltay. Je veux dire, on est où au niveau chronologie?
On est pratiquement en même temps, ça c'est un petit peu avant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le profil de Diltay, et c'est exactement le même que celui que je viens d'écrire, hein, Diltay, il est professeur de psychologie. C'est très très similaire. Donc le problème, c'est que tout ça est très peu documenté, donc je ne peux pas vous répondre dans le détail, je ne suis pas une spécialiste de Diltay, il faudrait aller regarder. Par contre, ce que c'est par exemple, c'est qu'il y a une influence forte de ces auteurs sur Nietzsche. Donc il y a des passages, je les connais très mal, je suis tout à fait navrée de pas pouvoir vous répondre plus, mais si vous travaillez sur Diltay, je serais ravie d'avoir...
Non, pas du tout, pas voilà. Du tout, mais c'est juste la distinction qui m'a marqué.
Ce qui m'apparaît, moi, c'est une distinction qui est formulée par d'autres auteurs, en fait, que Diltay, voilà, pour le dire. Voilà. Et très certainement par ces auteurs qui se situent dans une tradition assez, assez proprement française, on va dire, sur le plan philosophique, même s'il y a des références étrangères.
Oui, en fait, moi, je suis assez surpris par la conclusion, parce que si j'ai bien compris... vous suggérez qu'il n'y avait pas justement de concurrence, pas de conflit, et qu'il y avait plutôt un phénomène de disciplinarisation, si bien le terme vous est employé. Alors j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Je pense que c'était peut-être, d'après ce que j'ai compris, de mettre un peu la psychologie justement à la place de ce qui, dans le projet d'Auguste Comte, était en fait le rôle de la sociologie, qui était justement beaucoup plus facile à objectiviser. Hein, au point de vue méthodologique, etc. Alors que là, l'introspection, l'empathie, ce sont des problématiques. Je crois que j'ai noté l'œil intérieur sur les problématiques qui, par exemple, pour la psychologie, constituent une ligne de rupture et de conflit jusqu'à aujourd'hui, par exemple avec la psychanalyse par opposition à la psychologie clinique. Donc, je ne sais pas, j'ai plutôt l'impression que c'est révélateur de conflits, on va dire, plutôt.
Oui, mais pas dans cette période. C'est-à-dire que certains de ces thèmes vont devenir des lignes de conflit. Bien sûr, il y a du conflit. Hein, là, je vous ai pas raconter, là, puisque ces entreprises philosophiques, elles sont construites contre d'autres entreprises philosophiques, hein, notamment contre la philosophie qui domine le monde universitaire français dans ces années-là, qui est la philosophie spiritualiste inspirée de Victor Cousin. Le conflit est là, c'est-à-dire c'est projet philosophique contre projet philosophique. Et c'est à la faveur de ce conflit-là, en quelque sorte, qu'émerge une pensée, me semble-t-il, assez originale sur ce que pourrait être la psychologie, l'histoire, etc. Donc, ça, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question. Il n'y a pas de conflit. Il y a très peu de conflits dans ces années-là sur la question de l'introspection, par exemple. Il n'y en a même pratiquement aucun, à ma connaissance, en France. C'est-à-dire tout le monde admet que l'introspection est une méthode légitime de la connaissance psychologique. Par tout le monde, j'entends vraiment tout le monde, puisque même Littré, donc celui qui avait mis un interdit sur le seul qui a mis un interdit sur sur l'introspection psychologique de manière nette au XIXe siècle, c'est Auguste Comte, qui dit c'est pas possible, l'esprit ne peut pas se connaître lui-même. Donc c'est voilà, donc il y a pas de psychologie dans la philosophie positive d'Auguste Comte. Mais Littré, dans ces années-là, donc dans les années 1860, dans la philosophie positive, publie deux textes sur la psychologie. Et dans ces deux textes, il dit que Comte a fait deux erreurs. Un, en acceptant la phrénologie, enfin, ou en tout cas en adhérant à une partie de thèse phrénologique, et deux, en refusant l'introspection comme méthode légitime de la connaissance scientifique. Donc, bien sûr, Littré ne réduit pas la psychologie à l'introspection, mais il admet. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas de conflit sur l'introspection dans ces années-là. Pour la France, les conflits sur la question de l'introspection, ils sont vraiment tardifs à ma connaissance. Hein. Ils sont après 1900.
Oui, en fait, juste c'était par rapport en fait à, c'est plus par rapport, on va dire, aux sciences naturelles, oui, que je pensais effectivement, et la médecine, des domaines comme ça aussi, où effectivement il y a une tendance peut-être plus forte à aller vers justement, enfin. C'est plutôt la ligne de partage entre les sciences humaines et les sciences naturelles, mais ça...
Oui, voilà. Alors là, par contre, oui, je pense qu'effectivement, si ces auteurs se préoccupent de mettre une ligne une frontière, c'est une frontière entre les sciences de la nature et les sciences de l'homme. Ça, oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais là, il y a peu de conflits à proprement parler, à part autour, un tout petit peu autour de ce que pourrait être l'anthropologie. Donc, est-ce que l'anthropologie doit se fonder sur l'étude physique, physiologique, anatomique des races? Donc, il y a une série de par exemple, la position de Renan par rapport à la fondation de la Société d'anthropologie de Paris a été étudiée, donc il a refusé d'en faire partie. Mais c'est pas un conflit très ouvert, c'est-à-dire il y a pas eu de polémique, par exemple, entre Renan et Broca.
Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je passerai tout à l'heure le micro à Yannick Blandin, donc on ne fermera pas le micro. Merci beaucoup, Nathalie Richard, comme d'habitude. Merci à vous. Et puis, on t'attend dans 2 ans pour un autre sujet, bien entendu. Et puis, merci de nous avoir aidé à monter ce beau programme. Merci beaucoup. La prochaine, allez-y, vous pouvez l'applaudir. Donc la prochaine conférence, mais il y a d'autres conférences à l'Espace Mendès France entre-temps, c'est la conférence de Nicole Edelman sur les métamorphoses de l'hystérique qu'on attend, parce que l'année dernière, elle n'avait pas pu venir. Et puis je voulais vous annoncer que malheureusement, notre programmation sur le corps a été annulée, enfin notre journée de lutte sur le corps a été reportée dans un an, étant donné qu'il y a eu des grèves et que nos conférenciers ne sont pas venus jusqu'ici. Donc la journée du corps aura lieu l'année prochaine avec Bernard Andrieux, Georges Vigarello,